Nous sommes sur Aligre FM 93.1. Et cette semaine, Aligre FM organise une semaine autour des quartiers. Donc nous allons parler après avec des slameurs. Mais pour commencer, nous avons la chance de recevoir une personne qui travaille à Genève, en Suisse, et qui est de passage, qui s'appelle Béatrice Joyeux-Prunel. Donc nous profitons de son passage pour parler d'un livre qui vient de sortir aux éditions du CNRS, L'art contemporain, une infographie. Bonjour Béatrice Joyeux-Prunel.
Bonjour Yves Tanré.
Et alors, de quoi s'agit-il avec ce livre ?
C'est un peu un défi ce livre. Je suis historienne de l'art et en même temps je suis ce qu'on appelle humaniste du numérique. J'ai la chaire des humanités numériques à l'Université de Genève. Et donc je suis un peu spécialiste de comment on travaille avec l'ordinateur sur des énormes masses de données pour traiter de l'art. Mais jusque-là, tout ce que j'avais écrit sur l'art, le plus souvent, je le faisais de manière traditionnelle. C'est-à-dire, je travaillais avec des graphiques, des bases de données, je travaillais sur des milliers de personnes pendant un siècle et demi. Une fois que j'avais fait mes graphiques et mes analyses, je prenais des sources normales, j'écrivais sans montrer des graphiques. Là, le défi a été de faire l'inverse, c'est-à-dire de ne parler d'art, en l'occurrence l'art contemporain, qu'avec des graphiques, qu'avec de ce qu'on appelle de la datavise. Et c'était un travail que j'ai beaucoup aimé faire, très original, au sens où il a fallu pendant des mois, même plusieurs années en fait, c'est le résultat d'un travail de plusieurs années, trouver des données sur l'art contemporain, ensuite en faire quelque chose, leur faire dire quelque chose sur des sujets très divers, aussi bien le marché bien sûr, mais aussi les carrières, les trajectoires des artistes, l'art dans la ville, l'espace, le temps, la géopolitique de l'art contemporain. Donc faire dire des choses à ces données, les trouver, faire dire des choses, et après traduire cela dans une datavise qui soit belle, qui soit presque alléchante, qui rende curieux, parce que notre objectif avec la data designer qui a travaillé avec moi, c'est vraiment de faire connaître l'art contemporain à des gens qui ne s'y intéressent pas et qui en ont peur. Souvent, ça, c'est intimidant, on se dit « je connais pas, c'est pas pour moi ». C'était mon cas d'ailleurs, moi je viens d'un milieu qui ne s'intéresse pas à l'art contemporain et qui se dit « ça sert à rien, c'est pas pour nous, c'est des trucs d'élite ». Et en fait, c'est pas le cas, c'est quelque chose de formidable l'art contemporain. Donc voilà, notre défi, ça a été de donner envie aux gens de mieux comprendre l'art contemporain sous toutes ses coutures, aussi bien les artistes les plus connus, les œuvres d'art, les matériaux, je disais tout à l'heure les trajectoires des artistes, quand on est une femme par exemple, comment est-ce qu'on peut faire son chemin dans ce monde très mal de l'art contemporain. Et puis le deuxième défi aussi, c'était de parler d'art sans montrer des œuvres. Ça, c'était un défi pas facile. J'ai des collègues depuis très longtemps qui me disent « mais tu parles pas assez des œuvres ». Et là, on a vraiment pris la chose au sérieux. On parle des œuvres, de certaines œuvres, vraiment pas, évidemment pas toutes, avec du chiffre. Et je crois que ça donne un résultat assez chouette.
On pourrait donner le nom de la graphiste.
Oui, elle s'appelle Guillemette Crozet.
Et donc, comment était votre rapport quand vous aviez un sujet, comment vous avez fait la page ?
Alors, comment on a fait ? Alors déjà, moi, je suis arrivée dans une collection qui existe au préalable, qui avait plusieurs numéros avant. Donc, je suis arrivée dans l'équipe de nous deux, Guillemette Crozet et moi. Elle était expérimentée puisqu'elle a déjà fait deux numéros précédemment, qui sont magnifiques aussi. Un numéro sur la littérature et un numéro sur la mer. Des sujets très variés. Et donc elle, son métier, c'est vraiment de s'adapter aux chercheurs, à la chercheuse, de vous écouter, de parler avec vous des données. Évidemment, c'est moi qui fais tout le travail de recherche sur les données, d'interprétation, d'analyse, etc. Mais une fois que j'avais fait mon interprétation, moi, je lui disais quel était mon point de vue, ce que j'avais envie de démontrer sur le chapitre en question. Et après, elle me faisait des propositions de visualisation à partir des chiffres, des données que je lui envoyais. Donc ça a été un travail très régulier, de rencontres régulières. Alors moi, j'ai fait le plan du livre en plusieurs parties. On a choisi de faire, c'est plutôt la collection qu'il veut, entre guillemets, un plan en 6 chapitres. Moi, ça me convenait bien, un chapitre sur les espaces-temps, la géopolitique, un chapitre, le deuxième, sur les artistes, un troisième chapitre sur les matériaux, le chapitre 4 là sur les œuvres, le chapitre 5 sur le marché, comment on achète, comment on vend, et le chapitre 6, ça c'est mon préféré, je l'ai appelé « Aller se faire voir ». C'est un chapitre sur la manière dont on arrive à se faire voir, c'est très important quand on est artiste, mais aussi c'est un chapitre sur les coups de gueule des artistes. Parce que les artistes, en tout cas dans la tradition moderne, avant-gardiste, ils ont beaucoup envoyé valser le public, l'institution, tous ces gens dont ils dépendent et qui parfois ne leur font pas l'accueil qu'ils voudraient. Mais donc bref, on a fait ce livre en 6 grands chapitres et ensuite chaque chapitre est articulé en plusieurs doubles pages sur des thèmes divers, variés.
Et vous faites aussi des espèces de chroniques qui doivent faire événement. Quand vous dites, par exemple, que sans le pétrole, il n'y aurait pas d'art contemporain,
ouais.
C'est comme si on faisait un magazine, en fait.
Et oui,
qu'on fait un petit brain trust là, sur le chemin de fer et on dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour rebondir à la page 14.
Oui, alors, en fait, ce sont des... Effectivement, ce n'est pas tant des thèmes que des thèses. Livre. Sur chaque thème, moi j'ai des thèses que j'assume, qui sont les thèses de mon point de vue d'historienne sociale. Je fais de l'histoire sociale et mondiale
on
de l'art.
On peut prendre un exemple simple, il n'y a pas de femmes dans l'art contemporain, ouais. Et voilà. Puis vous faites vraiment le pourcentage et on arrive à 5%.
Alors on part de 80%, on part de 63% de femmes dans les écoles d'art, et donc 37% d'hommes, et puis on arrive à la fin à... 13% d'œuvres de femmes dans les collections publiques, ce qui est mieux qu'avant. Avant, ça a été pire, mais c'est quand même pas énorme, quoi. Et le 5% que vous citiez, ça, c'est un chiffre des années 80, où dans les années 80, il y a un groupe d'artistes qui s'appelait les Guerrilla Girls qui a fait un coup de gueule en disant « mais c'est pas normal que moins de 5% des artistes représentés dans l'art moderne du Metropolitan Museum of Art de New York soient des femmes ». Moins de 5% à l'époque, c'était un moins de 5%.
Le 5%, c'est en fait c'est les Africains. J'ai confondu.
Alors le
5%,
il y a un autre 5% aussi, effectivement, celui des artistes africains dans les musées. Ça, c'est un autre sujet aussi que je trouve passionnant. C'est celui de la décolonisation de l'art contemporain. On a dit beaucoup que l'art contemporain avait fait son tournant mondial, son tournant décolonial au début des années 2000. C'est vrai, c'est faux, c'est-à-dire au sens théorique du terme, il y a beaucoup de choses qui se sont faites dans le monde de l'art contemporain depuis globalement. Moi je pense que c'est pas depuis les années 80, il y en a qui disent c'est depuis l'exposition Magicien de la Terre, et c'est pas vrai, cette exposition elle n'était pas dans cette perspective-là, on l'a un peu reconstituée, on s'est fait des racines à l'histoire de la décolonisation de l'art contemporain, on a mis ça un peu en épingle, mais le début de l'arrivée des théories décolonial, moi je l'observe de mon point de vue, hein, plutôt au début des années 2000. Et en revanche, ça ne s'est pas beaucoup suivi de fait. C'est-à-dire que les artistes des anciens pays coloniaux, d'abord s'ils font carrière, c'est quand ils ont pu passer par les centres, entre guillemets, donc par New York, Londres, Paris, Berlin parfois. Et puis même étant passé par ces centres-là, il y a encore du chemin à faire, puisque effectivement, moins de 5%. Des artistes des collections des grands musées, Tate, MoMA et Centre Pompidou, sont d'origine d'Afrique subsaharienne. Alors c'est quand même une région énorme.
Et donc aussi vous faites, dans la décloisonnement, enfin dans le fait de défaire les préjugés, vous parlez des artothèques, on parle de quoi là?
Oui, alors qu'est-ce que c'est que les artothèques? C'est l'équivalent des bibliothèques publiques, mais pour l'art, c'est-à-dire que si vous voulez avoir de l'art chez vous, vous pouvez aller emprunter une œuvre et puis la mettre chez vous et vous la rendez dans 2, 3, 6 mois, je ne sais pas. Ça dépend de ce que vous...
Une vraie œuvre d'artiste, donc comme ce que je verrais dans un musée.
Exactement, une vraie œuvre. Et c'est assez chouette, c'est même formidable parce que l'art, c'est quand même pas donné. C'est cher, donc il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas se le payer. Ou alors on s'achète des trucs, des reproductions, et puis on est content aussi de voir changer un peu son intérieur. Donc l'idée des artothèques, c'est que une association ou la puissance publique, hein, les bibliothèques aussi, les médiathèques, achètent de l'art contemporain à des artistes de qualité qui donc peuvent vivre, puisque on leur achète de l'art, et puis après le grand public peut aller voir ce qui lui plaît et faire des essais dans son intérieur, et après peut-être, pourquoi pas, aller acheter une œuvre à cet artiste, parce qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait plus se séparer de son travail, et ça c'est une chose assez chouette. Et quand on voit la carte qui est dans le livre, il y en a partout des artothèques, il y en a sur tout le territoire, c'est très peu connu, mais en fait, alors même la carte elle n'est pas exhaustive, on a mis les artothèques représentées sur le site central des artothèques, mais il y en a un peu partout, et il faut vraiment aller voir, découvrir, ça vaut la peine.
Et le chapitre sur le pétrole, qu'est-ce qu'il raconte?
Ah, alors ça c'est un vieux dada, le pétrole, vous savez en 2021 on a eu la COP 21, en France, Et cette COP21, à l'époque, moi j'enseignais à l'école normale supérieure, et on nous avait sollicité pour nous dire, mais à l'occasion de la COP, vous voulez pas faire des cours un peu orientés écologie? Et moi qui faisais des cours d'histoire de l'art contemporain, je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais faire qui pourrait avoir un lien avec l'écologie? Et puis assez vite, la question du pétrole s'est imposée. Donc j'ai travaillé pendant 3 ans, j'ai enseigné sur l'art contemporain, c'est passionnant. J'ai un chantier, un gros chantier de livres que j'ai pas fini et qu'un jour j'arriverai peut-être à terminer. Mais bref, et là, c'était l'occasion rêvée de se dire, mais tiens, pourquoi j'en fais pas une double page de cette question du pétrole? Alors évidemment, c'est très résumé, mais j'ai essayé de dire les choses importantes de mon travail. D'abord, ça c'est un peu une évidence, mais l'art contemporain dépend du pétrole, sous plusieurs dimensions. D'abord, le plastique, il est partout dans l'art contemporain. Le pétrole, même avant le plastique, il est partout, puisqu'il faut des solvants pour faire de la peinture, des vernis, des liants. Alors avant, les solvants, ils n'étaient pas faits avec des produits du pétrole, mais aujourd'hui, c'est quasiment tout le temps le cas. Donc j'ai fait la liste de tous ces métaux, tous ces matériaux. Le pétrole aussi, il est présent dans les objets qui sont dans les œuvres d'art. On voit aussi dans une autre page qui s'appelle matériaux, depuis les années 60, il y a du plastique, beaucoup de plastique dans l'art contemporain, et ça ne s'est pas arrêté. Alors maintenant, quand les artistes mettent du plastique, c'est souvent pour dénoncer le plastique, mais en tout cas, on a de tout, on a des polyvéniles, des mousses, du silicone, des polymères, des fermetures éclairs, ça aussi, il y a du plastique, des tissus synthétiques. Il y a énormément de choses de plastique aussi dans la récupération, les déchets, les peluches, les jouets, les bouteilles plastiques, les pots de yaourt, il y a des œuvres en pots de yaourt, des œuvres avec du sac plastique même, ce qui pose d'ailleurs un problème pour les restaurateurs. Une fois que le sac se démantèle, qu'est-ce qu'on fait pour restaurer l'œuvre? Et puis aussi, le plastique, le pétrole, on retrouve dans les matériaux des multimédias, de l'art multimédia. Sans le plastique, on n'aurait pas les ordinateurs, plein de choses comme ça. Donc ça, c'était le côté pas d'œuvre sans pétrole. Et puis aussi, sans pétrole, il n'y a pas de musée. Pourquoi pas de musée? Parce que les grandes entreprises pétrolières financent beaucoup, ont beaucoup financé les musées. Alors maintenant, c'est un petit peu entre guillemets en voie de disparition, quoique, parce que depuis les années 2010, il y a des artistes, des collectifs qui ont protesté contre cette dépendance pétrolière des musées, avec des groupes qui s'appelaient par exemple Liberate State, libérer la tête contre le financement par BP, la grosse entreprise pétrolière de la tête. C'est arrivé au moment de la grande marée noire de Deepwater Horizon dans le golfe du Mexique. Donc il y avait vraiment une prise de conscience soudaine de mais qu'est-ce qu'ils font du mal à la terre et qu'est-ce qu'ils font du mal aux gens, quoi. Et pourquoi accepter que cet argent sale vienne financer les institutions qui montrent les plus belles choses de l'humanité, les musées, quoi. Donc il y a eu des groupes contre le financement de la Tate, contre le financement des musées d'Amsterdam, et maintenant aussi contre le financement du Louvre par Total depuis 2017. Donc voilà, les performances se sont multipliées et certaines fondations se sont retirées en disant on va se tourner vers des causes plus humanitaires, etc. Mais sans le dire, hein, elles n'ont pas dit que c'était parce qu'il y avait toutes ces protestations. Voilà. Mais donc, sans pétrole, pas le musée, ça c'est le deuxième axe important de cette double page. Et puis enfin, un troisième axe, sans pétrole, pas de marché de l'art contemporain, pas de biennale. Parce que les biennales, elles dépendent de l'avion. C'est vraiment apparu, les biennales se sont beaucoup développées dans les années 50, avec la création de biennales au Brésil, en Iran, au Mexique,
Hong Kong,
Tokyo. Alors Hong Kong c'est plus récent, puis les années 90 encore plus, et les biennales sont vraiment liées au trafic aérien. Quand je dis ça, je le dis de manière grave, au sens où les gens qui organisent les biennales, alors aujourd'hui ils affichent des efforts carbone pour diminuer leur dépendance, etc. Ils vont en avion en Floride.
Et en Floride, comme nous, on change d'arrondissement.
Exactement.
Écoutez, merci, c'était très bien. Merci de votre passage dans notre émission. Donc, c'était Béatrice Joyeux-Prunel pour l'art contemporain, une infographie CNRS édition. Je vous mettrai tous les renseignements sur la page podcast. On va écouter un petit morceau de musique.
Merci, Yves.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Je détale sur le dédale, décale à mesure, au fur et à mesure que les mots s'installent. Ma plume s'emballe, ma plume râle, elle déballe des souffres jamais apaisés, des mots sales s'incrustent sur ma plume et calme, maîtrise avant de tirer une balle. En bord de suicide, ma plume déclame justice à double vitesse, un trou dans le vide. Ma plume dans le vide, le bide, les veines et les tripes, strip authentique. Ma plume te cause, propose, œuvrer pour la bonne cause. Ma plume dramatique, hypercute dans le hip-hop. Petite sœur des pauvres, get up, stand up. Ma plume frappe, un style indélébile. Ma plume fataliste, même pas sur la liste. Dédiée à toutes ces flammes, mon slam est triste. Tu reconnais l'artiste, option réaliste. Et slam va bien. Mon arme, ma plume, l'art du slam, c'est pour toutes les âmes au bord du drame, perdues entre le marteau et l'enclume. Mon arme, mon slam, l'art de la plume, c'est pour toutes les âmes au bord des larmes, perdues entre le marteau et l'enclume. Mon slam coule des milliers de lames, des milliers de drames, ma plume en témoigne, me soigne. C'est vrai que je suis malade, voir la vie comme une arme sur la tempe. Ma plume révoltée au combat, une armée complète, brigade de malades. Claque verbale, dans mon esprit on est 10 000, 10 000 textes et on échappe à la doctrine. Sans amphétamine, mon nom c'est Shenby. Hey, mon slam, on a vu de toutes les couleurs, représente les douleurs de l'histoire. Dans ce contexte, ma plume atteste, c'est médical, hydrocéphale. Ma plume inexplicable, ma plume paranormale, ma plume médicinale. Contre toutes les plus belles bavures, ma plume sature en point de suture. Représente le slam tel une œuvre d'art qu'aucune monnaie ne pourrait racheter. Ce qui en est des soldes, n'y comptez même pas. On ne solde pas les œuvres d'art. Mon art, mon slam, ma plume, mon art. Au nom de ma plume figée, elle en a fait des coutures et des piqûres face à toutes ces ordures, des noirçures et des ratures. Je te le jure, ma plume brisera toujours l'omerta devant ces cruelles créatures. On ne peut pas se taire, non. J'étais prête à mourir pour mes idées, et ça peut coûter cher de se mesurer à ma plume aiguisée. Elle est là, elle te rassure, je te l'assure. Elle s'implique et se nourrit de sujets graves à jamais. Elle guérit les blessures, bien sûr. Addict ma plume, flaque la censure. Au nom de mon slam, au nom de ma plume, mon arme, ma plume, l'art du slam, c'est pour toutes les âmes au bord du drame, perdues entre le marteau et l'enclume. Mon arme, mon slam, l'art de la plume, c'est pour toutes les âmes au bord des larmes, perdues entre le marteau et l'enclume.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Et donc nous allons parler maintenant de la maison d'édition Xérographe. Pascal Desmazières, qui est avec nous, va nous présenter la maison. Bonjour Pascal.
Bonjour.
Je vous en prie, prenez. Parlez-nous de cette maison d'édition et dites-nous. Donc on fait une semaine sur les quartiers. Et. Vous êtes bienvenue. Et vous vous occupez de slam.
Merci.
Et maintenant, il faut qu'on dégorge tout ça.
Et bon, rapidement, la maison d'édition des Xérographes, c'est une petite maison d'édition associative. On est installé dans le quartier de la Goutte d'Or depuis 2006. Où on édite pas mal de livres avec les habitants du quartier. Et puis... pas mal de livres de slam, de poésie de slam, avec les poètes slameurs que je vous présente aujourd'hui, Shenby, Jib et Skam.
Shenby, Jeep et Scan, donc il faut que je percute. Et donc oui, vous faites des éditions, des animations.
Alors oui, il y a un lieu ouvert sur le quartier où on anime des ateliers, où on propose des expositions, on loue la salle aussi ponctuellement.
Vous avez une vitrine en fait ?
Il y a une vitrine, il y a des personnes qui viennent aussi présenter des livres. Enfin, il y a, c'est un lieu ouvert sur le quartier.
Faites des ateliers de dessin ?
Oui, dessin, bande dessinée et fanzine pour les enfants, dessin pour les adultes et écriture slam quand on a des commandes.
Vous avez toutes sortes de publics en fait ?
Oui, toutes sortes de publics.
Vous faites des choses pour les vieux ?
Ouais, seniors aussi, oui.
Et c'est quoi pour les seniors ?
C'est aussi du dessin, hein, ça détend. Hein.
Oui, je suis d'accord.
Avec papotage, thé, café, c'est convivial.
C'est parfait. C'est vous, sympa, vous avez une machine à café ?
Oui, oui, il y a une machine à café.
Et c'est bien, il faudrait que je passe une fois boire un café.
C'est un lieu convivial, très... on participe à beaucoup d'animes. C'est un quartier très actif, très animé culturellement. Économiquement, enfin, c'est un sacré quartier, la Goutte d'Or.
Et c'est très vivant. C'est
avec
la
diaspora africaine qui est très dynamique. Il y a énormément de boutiques, d'épiceries, des textiles, couturiers. Enfin, c'est une diaspora africaine. C'est un carrefour de la diaspora africaine très dynamique.
Et même historiquement, c'est un quartier qui a une longue histoire.
C'est un quartier d'accueil, ouais.
C'est un quartier.
C'est un bouillon de culture. Il y a une centaine de nationalités.
Mais
c'est le contraire d'un ghetto qu'on veut bien laisser.
Qu'on caricature.
Qu'on caricature, alors qu'il y a une centaine de nationalités dans ce petit quartier où tout le monde vit très bien, au point de vue culturel. C'est très fraternel. Il y a énormément de solidarité, énormément d'associations. Enfin, c'est.
Voilà. Et donc, vous avez un système d'édition, là. Vous m'avez amené des livres, Le Monkey Clack, 16 heures de slam. Vous m'avez amené 3-4 livres pour que je puisse les regarder. Et donc, vous allez à des salons, vendre les livres, vous faites la promo sur ces livres, vous en faites des choses avec ça.
Oui, les auteurs sont très actifs aussi sur leur réseau pour promouvoir leurs livres. C'est... Là, j'ai quand même des carrures, des... Comment on appelle ça ?
Des vedettes ?
Des vedettes du slam. Jim, Shenby.
Et donc,
les slams, ce sont des slameurs incontournables de la scène.
Et donc, Jim, Shenby, Jim ?
Gib.
Gib. Gib est avec nous dans la salle et il y a un petit... comment ça s'appelle ces choses qu'on ajoute sur les livres ? Comment ça s'appelle ?
Un QR code.
Non, pas un QR code, mais un petit bandeau qui nous annonce que vous avez été champion de France de slam poésie et du grand slam national en 2015.
Tout à fait.
Et donc, est-ce qu'il y a une slam en France qui est très active ? Est-ce qu'il y a du slam partout ? Comment ça fonctionne ? Moi, j'y connais rien au slam. Comment ça marche ?
Il faut aller au downtown. Ben justement, on a Scam avec nous qui anime beaucoup de scènes slam, hein, parce que je ne vais pas me baser justement que sur une scène slam. Et donc, il y a énormément de scènes depuis des années et des années. C'est là où on s'est rencontrés avec Shenby. Il y a déjà, il fut un temps.
Mais donc, vous durez. Et donc,
ouais,
Scam, vous avez fait un livre qui s'appelle Le mot qui claque, 16 ans de slam.
Exactement, ouais. C'est ça. Donc, c'est une œuvre collective. Je trouve que c'est important de le dire. La scène du mot qui claque, elle a été créée en 2008 par un collègue, un compère slammer que j'ai rencontré il y a maintenant pas mal d'années, qui s'appelle Mada Tao. Et l'idée de ce livre, de cette anthologie, c'était de recueillir des poètes, des poétesses qui sont passés par la scène. La scène elle-même a eu différentes vies en fonction des bars qui ont bien voulu l'accueillir, des lieux qui ont ouvert, qui ont fermé, qui ont suivi à certains moments cette aventure-là, des lieux qui ont été le théâtre aussi de beaucoup de rencontres artistiques, mais pas que, beaucoup de rencontres de vie aussi. Et l'idée, à travers ce recueil du coup, qu'on a publié cette année dans les éditions Les Aérographes, c'était de donner aussi une existence livresque à toutes ces scènes. Donc le slam, c'est complexe à définir. On se posait la question un petit peu... comment l'exprimer, mais c'est surtout des moments de scène où les gens vont venir partager des textes.
Donc c'est en live,
C'est en live,
c'est un
exactement.
Peu comme le free jazz, quoi.
C'est ça, ouais. Exactement. C'est du live, c'est du spectacle vivant. C'est des textes que les personnes parfois viennent partager pour la première fois sur scène. Parfois des textes refaits jusqu'à l'usure. Et l'idée, c'était de pouvoir, comment dire, en quelque sorte, figer et donner de la matière à ces 16 ans d'aventure poétique. Donc la scène aujourd'hui, elle continue. Elle a lieu tous les lundis dans un lieu qui s'appelle le 11 Bar. On n'a pas quitté les bars. On est dans un bar à côté du métro Couronne. Pareil, avec cette récurrence, tous les lundis, des premières fois, des habitués, des gens qui viennent de l'étranger aussi nous rendre visite. Et on a voulu aussi ce livre-là un peu polymorphe, puisqu'on a, à côté du livre, on a construit avec un collectif qui s'appelle La Calebasse, un album. Donc vous pouvez retrouver le mot qui claque aussi écoutable sur toutes les plateformes, avec les poètes et poétesses qui lisent leurs textes. Je me tourne vers Jib,
ouais.
Qui fait partie de ce recueil et qui est venu enregistrer à la fois en forme audio, mais en forme vidéo aussi. Donc tout ça, c'est retrouvable sur les réseaux sociaux du mot qui claque.
Et comme il disait justement, autre aussi définition du slam, parce qu'il y a autant de définitions que de slameurs et de slameuses. Et en fait, pour moi, c'est un terrain de jeu dans lequel tous les arts oratoires viennent s'amuser. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire spécialement « Oui, c'est un truc de poète, c'est un truc de rappeur. » Non, non, non. Quelqu'un qui a une déclaration d'amour, quelqu'un qui a un coup de colère, quelqu'un qui a quelque chose de militant, quelqu'un qui est en train de tester une sorte de one-man show, tu vois, peut venir. Et c'est ça l'un des avantages, parce que comme il disait, pour les artistes, avant c'était un peu difficile, comme ça il faut prendre rendez-vous, il faut connaître des gens pour pouvoir exprimer 3 minutes d'une thématique que l'on a envie de faire connaître. Et là, sur une scène slam, il te suffit, tu viens, voilà, tu viens, tu t'inscris, et puis voilà, on te met sur une liste, tu peux passer tout de suite. Exactement. Énormément de personnes, t'as des personnes qui se disent un rappeur, il va pas attendre d'avoir un rendez-vous, d'avoir sa musique ou quoi que ce soit, il a un texte qu'il a envie de tester, il vient et là il le balance. Et comme Scam disait, les textes on les utilise jusqu'à l'usure. Je dirais qu'il n'y a même pas d'usure, c'est que plus tu vas le dire, mieux c'est. Parce que souvent on arrive, bon comme il t'a dit, voilà, j'ai gagné à un moment, mais en fait, parfois, on te demande pourquoi. C'est parce qu'il y a une différence. Il y a des personnes qui prennent des textes comme un texte Kleenex. Tu le dis, hop, tu l'oublies, et tu ne maîtrises pas. Alors qu'en fin de compte, plus tu vas l'utiliser, plus le texte va te parler. Et va arriver un moment où tu ne vas pas dire ton texte. C'est ton texte qui va sortir tout seul. Tu vas penser à autre chose, tu regarderas quelqu'un, une belle fille sur la table, voilà, t'es préoccupé par quelque chose d'autre, et une fois que t'as lancé, paf! Tu vois, c'est comme un sportif qui a lancé.
Mais vous qui avez une longue pratique de la chose, est-ce que l'oralité est aussi importante que l'écriture ? Est-ce que vous faites bouger vos textes, par exemple, à force de les lire, ou bien ou est-ce que vous répétez tout le temps les mêmes textes ? Est-ce que vous trouvez une autre musique ? Est-ce que vous avez des battles ? Qu'est-ce qui différencie le slam
c'est la musicalité
d'un
des mots.
Récital de poésie ou de rap ?
Tu disais, c'est la musicalité des mots. C'est la musicalité des mots.
Oui, oui.
Et en fonction de la thématique que tu envoies, tu n'as pas la même expression. Chaque auteur, en fonction de chaque texte, tu l'appréhendes d'une façon différente. Moi, je suis souvent sur les mêmes thématiques autour de l'outre-mer, etc. Et tout. Donc, je donne toujours la rage, quoi. Chacun joue avec ses avantages.
Mais est-ce que les gens changent, par exemple ? Est-ce que la pratique... comme un chanteur qui va développer différentes époques dans sa pratique, qui va, je sais pas, on pourrait donner la parole à Shenbi,
merci,
qui est là, on est avec une demoiselle ou une dame, il y a un livre devant moi, Couleur d'espoir, douleur de l'histoire.
Oui, Couleur de l'espoir, douleur de l'histoire, c'est un bouquin qui réunit plusieurs textes de slam, mais si je vais rebondir sur la question au niveau du texte qui peut vivre et revivre, et pour moi un texte jamais va mourir. Après, c'est la façon dont vous allez l'interpréter, la façon dont vous allez le faire vivre. Effectivement, comme dit Jib, on peut le mettre sur une musique, effectivement, On peut également le mettre sur différentes musiques et avoir toujours une interprétation différente. C'est-à-dire, moi, je peux faire vivre un texte en slam, en rap, en chant. Enfin, voilà, au niveau de l'interprétation, pour moi, c'est l'interprétation. Et ensuite, le fait de, comme disait Jeep tout à l'heure, le fait de faire vivre le texte, c'est vrai que plus on va le dire, le répéter, l'interpréter, le dicter, le slammer ou le rapper, et plus il y aura les mots qui nous parlent, et là on parle avec le cœur, quoi.
Et vous, quand vous interprétez en public vos morceaux, il y a de la musique ?
Oui, moi il y a les deux, moi.
Oui. Donc vous amenez une bande-son et vous lisez avec, sur la bande-son.
Alors soit une bande-son, soit des musiciens aussi.
Live, ah oui,
des musiciens. Oui.
Vous voulez nous lire un petit texte ?
Je peux plutôt vous interpréter un texte de vive voix.
Ben, allez-y.
Ok.
Si vous voulez.
Bien sûr, avec plaisir, toujours.
Aligre FM 93.1.
On a écouté tout à l'heure le texte Ma plume en musique. Je peux le faire à capella.
Allez-y.
Je détale sur le dédale. Décale la mesure au fur et à mesure que les mots s'installent. Ma plume s'emballe, ma plume râle. Elle déballe des souffres jamais apaisés. Oh, des mots sales s'incrustent sur ma plume et calme. Maîtrise avant de tirer une balle. En bord de suicide, ma plume déclame justice à double vitesse. Un trou dans le vide, ma plume dans le bide. Les veines et les tripes, strip authentique. Ma plume te cause, ma plume te propose. Vrai pour la bonne cause. Ma plume dramatique, hypercute dans le hip-hop. Petite sœur des pauvres, get up stand-up. Ma plume frappe un style indélébile. Ma plume fataliste, même pas sur la liste. Dédiée à toutes ces flammes. Oh, comme mon slam est triste. Tu reconnais l'artiste et cela va bien. Je détale sur le dédale. Parce que mon âme, c'est mon slam. Ma plume, c'est mon âme. Ma plume saoule des milliers de lames, coule des milliers de drames. Ma plume en témoigne, me soigne. C'est vrai que je suis malade de voir la vie comme une arme sur la tempe. Ma plume révoltée au combat, une armée complète, brigade de malades, claque verbale. Dans mon esprit, on est 10 000 et on échappe à la doctrine. Ma plume atteste que c'est médical, hydrocéphale, ma plume inexplicable, ma plume paranormale, ma plume médicinale, contre toutes les plus belles bavures, ma plume sature en point de suture, au nom de ma plume figée. Elle en a fait des coutures et des ratures, face à toutes ces ordures. Je te le jure, ma plume brisera jamais l'omerta devant ces cruelles créatures. On ne peut pas se taire.
Merci. C'est formidable, merci bien, c'est une très belle démonstration. Et est-ce qu'il y a une infinité d'interprétations ? Est-ce qu'on va entendre des choses très très différentes ? Si on va dans un café qui s'appelle Babel et qu'il y a la terre entière qui débarque, qu'est-ce qui se passe ?
Complètement, et c'est ce qui fait aussi la beauté de ces scènes-là. À mon sens, c'est le fait qu'on va avoir beaucoup de... quasiment autant d'interprétations qu'il va y avoir de personnes qui vont se présenter sur scène. Chacun va venir avec... une pratique de la scène qui va être différente. Certains vont venir du théâtre, certains du rap, certains de peut-être de la poésie écrite qui va être lue pour la première fois. Et donc tout ça va faire un mélange. Chacun va venir s'apporter quelque chose. Et nous, quand on va présenter cette scène-là avec Madatao, on va essayer justement de créer un fil rouge. Quelque part dans la soirée, il y a des personnes qu'on connaît, qu'on va faire passer à certains moments où on sait que la scène aura besoin peut-être d'une énergie un peu plus théâtrale ou de quelque chose de plus posé et qu'on va faire s'interfacer avec des personnes qui viendraient pour la première fois, toujours avec beaucoup de bienveillance. L'idée, c'est de mettre les gens à l'aise. C'est pas évident. C'est jamais évident de monter sur scène, de prendre la parole, de défendre un écrit parfois très personnel. Donc on essaye de créer un cadre. On a des petits rituels, par exemple. On fait toujours un vœu quand quelqu'un monte pour la première fois sur scène. Après chaque texte, on donne un petit Werther's Originals, un petit caramel. Voilà, on essaye de créer un cadre dans lequel les gens se sentiront suffisamment à l'aise pour monter sur scène. Et sur l'interprétation aussi, je voudrais dire quelque chose sur les textes qu'on fait plusieurs fois. Je trouve que le fait d'avoir un rapport très direct avec le public fait que l'interprétation peut évoluer aussi grâce à ça.
Le public réagit.
Le public réagit.
Il fait des bruits.
Exactement. Le public réagit. On n'est pas dans un théâtre. On est dans un lieu où souvent...
On est très proche du public. On est dans un café.
Exactement. On est dans un café. Parfois, il y a du bruit. Parfois, il y a des gens qui ne venaient pas nécessairement pour ça, mais qui vont s'arrêter de peut-être dans leur discussion pour écouter les textes, ou qui s'arrêteront pas du tout, qui vont continuer à parler, il faut vivre avec. Et il y a souvent des poétesses, des poètes qui vont venir avec un texte qu'ils auront écrit le jour même, qu'ils vont lire. Et donc ils auront un retour direct, entre guillemets, sur leur texte, sur comment peut-être un moment de silence qu'il aurait fallu prolonger, ou une émotion particulière qui va se dégager par rapport au public. Donc c'est ce qui fait aussi que ça va évoluer.
Est-ce qu'on parle au public, est-ce qu'on a, on a le côté stand-up ?
On a souvent des, j'ai envie de dire, des temps introductifs un petit peu au texte. Nous, on applaudit les poètes et poétesses jusqu'à ce qu'ils arrivent sur scène. Donc, il y a cette arrivée-là et souvent quelques mots qui sont prononcés.
On théâtralise. Il y a un rituel et on théâtralise.
Ouais, exactement. On va théâtraliser. Et après, c'est vraiment à chacun fait comme il veut là-dessus. Il n'y a pas de format type si une personne a envie de commencer et de faire... une introduction vraiment longue pour présenter parce qu'elle juge que c'est important de mettre du contexte, c'est possible. Et si quelqu'un vient et rentre directement dans le texte, et j'ai envie de, pour poursuivre ça, il y a des textes très longs et des textes très courts aussi. Pour que la soirée, comme on a un certain nombre de personnes à faire passer, on essaye de faire en sorte que les textes durent entre 3 à 4 minutes maximum. Et il y a des poètes qui vont arriver avec des textes de 30 secondes, d'autres avec des choses beaucoup plus longues. Enfin voilà, c'est assez varié en termes de format aussi, de texte qu'il peut y avoir sur une scène.
Et est-ce que vous avez des souvenirs de moments inoubliables ? Est-ce qu'il y a des grands, ouais. des grands moments comme quand Coltrane jouait, je sais pas, au Danemark, brusquement un soir, Love Supreme, et que c'était absolument génial parce qu'il y avait un bon trompettiste avec lui, un bassiste avec lui, exceptionnel.
Franchement, il y en a tous les lundis.
Tous les lundis, ouais. Il y a des moments exceptionnels.
En fait, moi, il y a deux choses auxquelles je pense comme ça spontanément. Moi, j'ai découvert cette scène au Downtown Café. Donc, qui était un lieu un peu mythique, qui était un bar qui est dans la rue Jean-Pierre Timbaud, dans le 11e. Et nous, on est juste un peu plus haut maintenant, 11 bars, donc on n'a pas tellement bougé finalement.
C'est très vivant, et la rue Timbaud, là, ouais. Il y a beaucoup de monde.
Hein. Exactement, et ce bar-là était toujours blindé tous les lundis. Et un jour, il y a Gaël Faye qui vient. Donc Gaël Faye, qu'on connaît énorme, aujourd'hui, ouais, comme écrivain, comme chanteur aussi, enfin auteur-compositeur, etc. Et je me rappelle très bien voilà, il était venu, il avait fait un texte vraiment en s'inscrivant comme tout le monde, et il était passé, il avait fait un super texte, et c'était un des moments voilà, c'était assez magique de le voir comme ça sur cette scène. Et après, plus globalement, moi, ce qui va vraiment me parler, c'est les gens qui vont passer pour la première fois. Et ça, il y en a tous les lundis, et c'est à chaque fois un bonheur.
C'est ça qui vous fait bicher, incroyable. Cette espèce de cette émotion.
Exactement.
À prendre la parole en public.
À prendre la parole en public et à se lancer pour la première fois sur scène.
Ouais. Cette espèce de...
Moi, si je viens un jour au 11 bars, ça sera la première fois que je fais un slam.
Ben voilà.
Au 11 bars.
Exactement.
Alors que ça
on fera un vœu.
Ça fait 23 ans.
Comme il dit
souvent, lorsque quelqu'un fait souvent un premier texte, on le voit intimidé, puis c'est quelque chose, tu sens qu'il y a de l'amour ou quoi que ce soit. C'est mignon. Et tu vas souvent avoir le public qui va être là, c'est mignon. Tous ensemble, quoi. Et ça va être des trucs magiques, quoi.
Ça doit être terriblement paralysant si tout le monde dit c'est mignon. Ça me plairait pas. Vous voulez nous dire quelque chose, nous donner un petit parfum des îles.
Le poème Les ombres armées.
Ouais. Où sont mes armées d'ombre? Où sont mes ombres armées? Ensevelies aux excavations de l'oubli, enfouies dans la putrécible amnésie, diantres de la pusillanité extrême, pourvoyeurs de morts mercantiles, ils bâillonnent la genèse des voix des sans-voix, soucougnant de l'histoire noire, affonnant l'Iphigénie, glorifiant le piaculaire dans une pérennité grasse. Mais au panthéon de la réminiscence, le gardien de la veine du souvenir ressurgit d'un au-delà colérique, dans une oraison d'aliénation délégataire, libérant l'aphasie, historiant les crimes, stoppant la paralalie. Dans une plaie d'eau morte d'où jaillit la conscience de la contrition, la mer pleure en son soleil noir. Ses brises-lames ne sont plus que des brises-larmes. assèchement de peine liquide, l'assèchement de peine limpide, l'as sèchement. Les veines livides par la sémantique des peines, l'eau de Dodin plein de dédain enjolive la missive du chagrin. Au bateau-maître de la cruauté, le bateau-maître engloutit nos natalités, tandis que les nègres et les cafes battent au maître de leur chère défaite, gangrénant de l'excoriation la longueur en mètres de route de leur souffrance exquise. Combien de bateaux, combien de maîtres, combien de maîtres, combien de basses eaux. Au tréfonds de l'au-delà des mers, nos corps jetés par-dessus bord coulent à pic. À côté de moi, je vois le sondeur de la bathymétrie jauger la descente de nos corps. Je suis là. Voilà. Voilà, en fait, bon, je vais pas. Tu vois, hein, ça dure trois minutes. On est sur une émission, tu vois, mais voilà, après, ça continue. Voilà, ça, c'est un extrait, là. Mais tu parlais justement de choses, des trucs qui t'ont marqué. Voilà. Moi, il y a deux trucs qui m'ont beaucoup marqué. C'est une fois, piéton, ah, où ouais, on piéton. L'appelle. Et le gars, il était là, mais il était torché, il était bien, enfin bref, et tout.
Piéton, ouais.
Et le gars, on le demande, et lui, en fait, tu vois, on te dit, il y en a qui viennent tels qu'ils sont.
C'est vrai.
Il n'a pas besoin de conquérir le public, il est là, il a ce qu'il a à faire. Et tu dis, non, moi je reste où je veux, quand je veux. Et du public qui lance son texte et qui s'approche du... Alors tu vois la personne, son état physique te fait la pression, mais le gars il est bourré, il est tout... Hein, oui, mais la performance est hyper forte, tu vois. Et ça c'était... Tu vois où tu te demandes, est-ce que tu vas critiquer le gars pour sa façon d'être, mais tu l'admires pour sa façon de dire. Et donc, tu vois, le public est un peu pris et ça rajoute quelque chose dans sa performance.
Mais est-ce que c'est pas justement la possibilité pour chacun d'être comme il est ?
Ah, mais parce qu'on est souvent parfois bourré. Attends, hé oh, on n'est pas des...
L'idée, c'est que chacun arrive avec tout ce qu'il a.
Ça finit, ça fait 10 ans.
Oui, moi non plus, mais c'est vrai qu'on a eu des époques où on était... tu vois, on vient... C'est-à-dire parce que le slam, en fait, ce n'est pas que performer... C'est aussi toute
c'est
cette convivialité qu'on a avec les personnes qui sont là autour de nous. Et souvent, les personnes vont penser qu'on va parler du slam. On va souvent se dire, oui, tu viens dire ton texte. Oui, mais ce que l'on oublie, c'est qu'un slameur, c'est plus quelqu'un d'écoute que quelqu'un qui vient dire. C'est-à-dire, pour trois minutes que tu viens dire ton texte, tu passes plus de deux heures à écouter les autres. Et c'est ce que l'on oublie souvent, tu vois, il y a un prisme, tu regardes le slammer, ouais, tu viens te montrer. Écoute, je vais d'abord écouter la trentaine, la quarantaine de personnes qui sont ici.
Bah, vous êtes formidable.
Tu vois, c'est... non, non, mais c'est important de voir le slammer sur aussi ce regard-là.
Aligre FM 93.1.
Et donc, vous êtes des partisans de l'écoute. Je suis très impressionné parce que normalement, dans ce genre de scène, c'est plutôt du cabotinage et c'est tu ton frère pour prendre sa place. Bah justement, je parlais du stand-up, c'est une guerre. Tandis que vous, c'est plutôt une fraternité, alors.
Une fraternité guerrière.
Une voilà. Fraternité,
une fraternité guerrière, quand même.
C'est guerrier.
Parce que bon, moi, oui, je suis, j'écoute, mais je...
Vous cognez ?
Moi, je préfère me montrer, quoi.
Ouais.
Je préfère dire mes textes que j'ai bossé pendant plus de toutes ces années, plus de 22 ans. Donc, oui, si j'ai fait staff, c'est pour montrer le travail que j'ai effectué durant toutes ces années.
Mais est-ce qu'il y a le côté battle ?
Il y a eu, j'ai fait des espèces de concours et tout ça, oui, bah, les meilleurs poètes ne gagnent jamais, je suis désolée, quoi. J'arrive toujours deuxième.
Ah oui.
Ouais, c'est comme ça.
C'est qu'une bonne place quand même, deuxième.
C'est pas mal, mais c'est pas la meilleure.
Ouais, ça c'est...
Shenbi, c'était une ancienne sportive de haut niveau.
Mais juste pour compléter effectivement pour là-dessus sur la famille, c'était aussi... Ce qu'on a voulu faire, et Pascal, quand elle nous a proposé de faire ce recueil autour de la scène, pour nous, c'était un peu l'occasion aussi de récupérer différentes personnes qui ont fait partie de la scène à un moment donné et qu'on avait perdu de vue parce que géographiquement, parce que le slam avait représenté une période de leur vie. Et ce qui est chouette, c'est que ces personnes-là continuent de venir nous rendre visite de temps en temps sur la scène qu'on anime tous les lundis. Et dans ce recueil-là, donc, il y a 38 poètes et poétesses qui ont tous âges aussi et qui sont passés. Il y en a certains qui étaient là en 2009, qui ensuite ont quitté la scène un moment, qui l'ont retrouvé 10 ans après. Et en fait, cette trajectoire-là forme pour moi une sorte de constellation poétique qu'on a pu réunir dans ce livre. Je pense à un poète comme Le Robert, par exemple, qui
Robert,
était quasiment là à la...
Formidable.
Il suffit que je dise Le Robert pour susciter des réactions.
Bah, parce qu'il est fort.
Mais qui est un super poète et qui était là quasi, en fait, à toutes les étapes de cette scène et qui, aujourd'hui encore, vient les lundis avec, j'ai envie de dire, l'expérience qu'il a aussi des scènes, mais qui vient partager des textes, qui vient se nourrir aussi, comme Jib le disait, de ce qu'il peut entendre sur les scènes, et ça fonctionne ensemble. Tout ça fonctionne ensemble.
Et avant qu'on...
Et tu as Bernard, quand même, hein, qui venait slammer sur scène jusqu'à ses 85 ans.
Ah, c'est extraordinaire.
85
ça.
Ans, il venait quand même performer.
En réel aussi.
Moi, il y a une dizaine d'années, j'étais avec lui, on fait le championnat de Tour de la Ligue en équipe. Et c'est vrai que, attention, c'est-à-dire que on a dû faire un texte collectif et certaines personnes, c'était moi, Chadeline et puis Bernard, et puis personne, c'était un texte cru, hein, qui parlait de sexe, mais en cru, hein, tu vois, et très drôle. Et c'est vrai qu'il y a certains, bon, ils ont fini par dire, mais attends, c'est Jib, c'est toi, parce qu'ils ont éliminé Chadeline parce que c'est une fille, ils ont éliminé Bernard parce qu'il est âgé. Je dis, non, tout ça, c'est concentré, c'était sur les textes de Bernard. Donc, tu vois, faut pas juger un livre simplement à sa couverture, quoi. Et un slammer, tu peux pas le juger à son apparence.
Et donc, je vous ai entendu dire que vous aviez été à Nantes.
Ouais, tout à fait. Et c'est bien de parler de Nantes. Effectivement, il y a une scène très active là-bas, notamment avec un collectif qui s'appelle les Lapins à Plumes, qui organise plusieurs scènes sur ce même modèle dans des bars. Et donc, ouais, j'y suis allé assez récemment. En fait, il y avait un premier set qui était avec une association féministe avec des thèmes dédiés aux violences sexistes et sexuelles. Donc, le premier set était dédié à ça et le second, c'était scène ouverte. Et donc, j'ai eu l'occasion justement de pouvoir parler du livre, présenter la maison d'édition aussi et présenter ce qu'on fait avec le mot qui claque. Et pour aller un peu plus loin, on a des scènes avec des façons de faire communes en France, à différents endroits. Donc il y a la Coupe de la Ligue Slam de France, par exemple, qui est une compétition nationale qui va venir à un moment donné rassembler sous forme de compétition, mais aussi partout dans le monde. J'ai eu la chance d'aller faire des scènes ouvertes au Brésil, par exemple.
Extraordinaire.
Et on retrouve...
En français, alors ?
En français et un peu en portugais aussi. J'avais essayé quelques textes là-bas. Et on retrouve cette même façon aussi d'accueillir, ces mêmes façons d'oralité, ces mêmes émotions des personnes qui vont passer pour la première fois, presque même des caractères ou des choses. On se dit, mais lui, je ne l'ai jamais rencontré, mais en fait, il me fait penser à telle personne de ma scène du lundi. Donc ça, c'est un mouvement mondial.
Et donc, les îles, alors, il y a beaucoup de slam dans...
Il parlait de Nantes, parce que c'est vrai que Nantes, le lapin à plumes et tout ça... avec Tom Tom, etc., et avec Nico. Flo, etc. Il faut quand même préciser que s'il y a le grand slam national, parce qu'il y a deux tournois, hein, y a la Ligue de Slam, il y a le grand slam national, mais maintenant, le slam s'est diversifié aussi, c'est-à-dire que chaque région et chaque grande ville ont maintenant aussi des grands tournois auxquels maintenant les slameurs font fait le tour de France, hein, un peu pour aller au slam à Robrisva, ou sinon...
Ça
me fait une belle jambe, ou sinon on va aller à Grandville, enfin, à Toulouse, il y a le slam Magret d'Argent, enfin, à Aubagne, Marseille, enfin, il y a partout maintenant, Synergie. C'est devenu. Alors, il y a le grand slam national, et c'est vrai que c'est à Nantes qu'ont commencé les trois premiers grands slams nationaux ont été faits d'abord à Nantes. Hein,
ouais.
Parce qu'il y a ce que l'on voit maintenant en tant que parisienne, avec Alice Ligier, etc. et tout, c'est justement quelqu'un de Nantes. Donc, c'est-à-dire.
Il y a une poétesse qui est dans le recueil aussi.
Ouais. Qui, comme Shane B, mélange beaucoup aussi les textes et la musique, tu vois, et avec des styles justement différents, un peu plus rock, plus...
Est-ce que quand on va slammer, et quand on écoute des slameurs de l'Est, c'est très différent des slameurs du Sud Est-ce qu'on peut imaginer du slam alsacien et puis du slam pyrénéen?
Comment ça se passe? Il y a des écoles d'écriture un peu. Ouais. Il y a un peu du style, parce que par exemple, Reims avec les ateliers slam.com, ça dépend justement, tu vois, c'est-à-dire que Paris, ça va être différent. Parce que Paris, on va aller tous un peu partout, quoi que ce soit, mais il y a des groupes justement qui font beaucoup, avec IAS, etc., Madata, Dareka, enfin, il y a tout un groupe qui vont avoir les styles. Mais par exemple, Reims, on va dire, tu vas souvent reconnaître un peu le style rémois. Alors attention, ça ne veut pas dire, c'est pas image arrêtée, tout le monde se ressemble, hein, chacun sa personnalité.
Mais
t'as un type d'école où tu vois qu'il y a beaucoup de la théâtralisation, etc. Ouais. Et tout. Et eux aussi, justement, ils font slam sur la langue, enfin, qui est aussi des grands tournois. Et voilà, quoi. Et, parce qu'à un moment, il y a eu une dissension, en fait. Il y avait le grand slam national. Et puis, il y a eu des dissensions, un peu, qui se sont faites avec région. Et puis, bah, tu sais, un peu, la question, on retrouve le slam comme on retrouve la vie. Les gens en ont marre des Parisiens, toujours concentrés que sur Paris, Paris, Paris. Et c'est une bonne chose, justement, que cela se développe aussi ailleurs. Tu vois, on ne change rien dans le monde. Hein. Tu vois, on prend un domaine, on revient là-dedans. Et maintenant, il y a Zorg et Yopo qui ont lancé la Ligue Slam de France. Donc, Pilote le Hot, lui, c'est le grand slam national. Et ils font maintenant le slam à l'école. Parce que c'est vrai qu'on parle là de slam comme ça. Et non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils font le slam à l'école. Ce que je veux dire, c'est qu'ils font maintenant financer.
Oui, avec la SACEM,
ouais. C'est-à-dire
que ça,
c'est toujours fait. Mais maintenant, ils ont réussi, par le biais de Grand Corps Malade, de faire officialiser le fameux... je sais pas comment on appelle ça.
Label, tu veux dire?
Labelliser un peu le slam à l'école, qui fait que souvent ça passe par là. C'est-à-dire l'institution s'est mise et donc des écoles vont recevoir plus facilement. Ça veut dire que.
Moi, j'ai commencé, si je peux bondir sur ça, j'ai commencé en 2003 à donner des ateliers d'écriture slam, d'ateliers de performance, des bocals agités, mais il fallait toujours qu'il y ait du texte slam. En 2003, j'ai commencé en juillet à Toulon. C'est moi qui ai amené le slam là-bas. Et de là, s'est créé justement le collectif Synergie Slam avec MU.
Énergie Slam, c'est ce que j'allais dire, voilà. Avec MU, Gab.
Ouais. C'est moi qui ai amené ça là-bas. Et je suis fière de dire ça quand même. Mm-hmm. Que j'ai fait... Donc moi, j'ai commencé en 2003 à faire des ateliers d'écriture avec les petites écoles, les collèges, les lycées. J'ai fait aussi Université de Toulon. J'ai fait bibliothèque, centre hospitalier, toutes les institutions, PJJ, maison de la justice, toutes les institutions possibles, hôpital.
Les prisons
Oui, mais pas prison, pas maison d'arrêt pour adultes. Non, j'ai fait tout ce qui est PJJ, c'est les foyers, jusqu'ils avaient 21 ans.
Oui, c'est bien, hein.
Donc j'ai fait ça de 2003 à 2013.
Formidable.
Puis voilà, ça fait. On est en 2024. Donc...
Et MU a été vice-championne de France à la Ligue en 2019.
Voilà.
Et donc on a aussi un côté Babel, alors je veux dire, dans les participants, là, comme tous les lundis quand ils viennent, est-ce qu'on a des Soudanais, est-ce qu'on a des Afghans qui viennent sur scène?
On a la chance de recevoir de temps en temps effectivement des personnes qui viennent d'un peu partout dans le monde.
Sergio Garro.
Ouais, par exemple, en fait, de la longévité de la scène et du fait qu'elle soit là tous les lundis. Exactement. Donc il y a aussi cet aspect-là.
Il y a le bouche à oreille qui fonctionne.
Exactement. Il y a le bouche à oreille. Il y a le fait que quand il y a des tournois ou des événements internationaux de slam qui ont lieu à Paris, les personnes vont en profiter aussi pour aller voir les différentes scènes qui se font. Et on a la chance en ce moment d'en avoir beaucoup. Si on regarde un peu le planning ou l'agenda des scènes slam ou des rendez-vous poétiques dans la forme dans laquelle nous on va le pratiquer, c'est-à-dire de l'oralité sur scène avec soit une lecture, mais en tout cas ces textes-là, il y a vraiment beaucoup de scènes en ce moment, c'est très riche, c'est vraiment une bonne période pour ça. Et donc les personnes vont venir nous rendre visite assez régulièrement, amener, je pense à un poète qui fait partie du recueil aussi, qui s'appelle Dareka, que nous on surnomme affectueusement notre ministre des Affaires étrangères, parce qu'il a toujours, il nous ramène à chaque fois le champion du Japon, la championne d'Italie, etc., etc. Donc à chaque fois, il va nous amener des personnes aussi. Et on a un poète qui s'appelle Mosseger, qui lui est américain et qui va venir chanter souvent sous une forme jazz, blues, des choses en anglais. C'est au-delà de la langue, en fait. Et c'est ça qui va...
Est-ce que vous pouvez redonner l'adresse du lieu ?
Alors, c'est le 11 Bar, et c'est 83 rue Jean-Pierre Timbaud, dans le 11e arrondissement. Et c'est tous les lundis.
Je le marquerai sur c'est la tous les lundis du podcast.
Avec grand plaisir.
Et donc, je voudrais remercier...
Et Darika, justement, dont il parle, qui... que j'ai présenté parce que j'ai toujours été fan. Il a un texte, Nous sommes des poètes de neige. Et j'en ai tellement parlé, j'en ai tellement parlé à Pascal que elle a fini par l'éditer, quoi, avec un super beau recueil qui s'appelle Tourbillon, avec de très belles illustrations. Et donc, en fait, on sortait de mot en mot, et donc on parle du bouche à oreille. Et le bouche à oreille, c'est fait partie des premiers tournois qu'on avait, voilà, à ton époque, à 2004 où passait Grand Corps Malade, Cazet, Déprime de Cabale, Shenbi,
Martios.
On a même des slameurs qui sont maintenant en Philippines.
Hucoc.
Quelqu'un.
Murder.
Il y a vraiment des personnes.
Écoutez, merci, on va devoir arrêter. Je voudrais remercier les gens qui sont derrière la vitre, Enrico, Mastro Giovanni et Kumba Falco. Non, c'est pas lui. Ouais. Et donc, je ne sais pas.
C'est Sefraim, nouveau bénévole.
Sefraim. Et je voudrais remercier donc Sefraim et Enrico Mastro Giovanni. Merci à vous d'avoir assuré le son.
Ouais.
À la semaine prochaine, c'était.
Voilà. T'as pas un extrait quand même de texte, c'est quand fini. Même, Scam
C'est fini, bah, les mecs, on va passer l'antenne merci à beaucoup. Cause commune.
J'étais en face à face avec Grand Corps Malade en 2004.
Venez faire une émission toutes les semaines, je sais pas, bougez-vous. C'est très bien, vous êtes dans l'oralité, on est à la radio, mais c'est pas moi.
Salut, c'est fini.
Au revoir.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.